Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous. Hors-champ ce soir, dernière émission avec Philippe Solers. Je n'ai jamais été le type qui écrit. Je suis depuis le début le type qui se sert notamment de l'écriture. Pas exagérément, je crois. Ou alors tout à fait exagérément. Tout ça, pour moi, est de l'ordre du semblant, du théâtre, au sens métaphysique du terme. Je ne fais pas de la littérature. Mes livres sont une façon de passer le plus efficacement possible dans la parole que je me sers. Voici ce que vous écrivez dans Fugue, dans le chapitre consacré à Socrate. Et pour préparer cette semaine d'entretien, je me suis rendu compte que, effectivement, c'est du murmurer, parler, écrit, c'est de l'écriture à l'oreille que vous faites depuis très longtemps, et même depuis peut-être le premier roman, Philippe Solers.
La façon dont j'essaye de vivre consiste à ne pas séparer l'art de la vie. Par conséquent, je ne suis pas quelqu'un qui se dit « Tiens, je suis écrivain, je vais écrire mon prochain livre parce que mon éditeur l'attend en fonction de ceci, ou en fonction de ce que la société me réclame, en fonction des estimations de vente, en fonction d'un public plus ou moins imaginaire, etc. » Donc voilà, j'ai fait publier, c'est attendre une réponse. C'est la publication, comme disait Lacan. Voilà, 600 livres, 600 romans tous les ans. Bon, je ne vis pas comme ça. J'essaie de ne pas séparer mon art. Mon art consiste à me parler à moi-même, à écrire de temps en temps ce qui me vient, etc. Et puis ça finit par faire des textes. Etc. Mais j'essaie de vivre tout le temps en fonction de cette parole incessante. Bon, il suffit d'être un peu familier de ses rêves pour savoir que c'est d'ailleurs comme ça que Freud a compris la mécanique des rêves. Hein, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps, en dormant.
Donc l'écriture, c'est un tutoiement de soi-même.
Oui, voilà, c'est très beau cette formule-là. Il faut savoir tutoyer son âme. Oh, son âme, si quelqu'un a encore des... Oui, est-ce que le mot âme existe encore dans le vocabulaire?
Le vôtre, oui.
Et oui, parce que l'âme est la forme du corps, comme a dit un concile. Très... Il y a ces vers de Rimbaud que je me récite tous les matins. Dans l'autobus. J'attends mon autobus, je passe au large du Luxembourg, je vois des arbres et je me récite exactement ces vers de Rimbaud. Mon âme éternelle, observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. On peut réciter ça. Mais enfin, il faut essayer de le comprendre. Premièrement, voilà quelqu'un qui tutoie son âme. Mon âme éternelle, observe ton vœu. Observe ton vœu. Ton vœu, un vœu, c'est un souhait, etc. Mais ton désir, enfin, observe au sens de l'observance, de la stricte observance d'un rite, ou observe au télescope, observe...
Les étoiles.
Voilà, oui, bah, bien sûr. Elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut dire, là ? C'est absolument magique, voilà. C'est pour ça que je convoque l'autobus. Il y a une foule dans l'autobus. Dehors, il y a des arbres qui n'ont fait de mal à personne.
C'est très sartrien, ça.
Oui, ah, oui, sauf que Sartre, la nausée, ça consiste à, au contraire à avoir une nausée dans un jardin. Moi, au contraire, j'entre dans un jardin et c'est les souvenirs d'enfance. Pour petit Sartre, il n'a pas été heureux dans, dans un jardin. Moi, si. Donc, mais Sartre est attentif au fait que la nature s'exprime de façon catastrophique ou alors, au contraire, de façon très heureuse. On lui fait beaucoup d'ennuis à la nature. Elle n'est pas contente, elle se révolte souvent. Enfin, on sait ça. Mais enfin, un autobus bondé, des arbres au loin, et tout à coup, cette récitation. Bon, ou alors je pense à ce que je vais écrire tout à l'heure, c'est-à-dire à quoi j'ai pensé le matin, qu'est-ce que
ou
je
dans
peux,
la nuit.
Ou dans la nuit, qu'est-ce que je peux introduire comme nouveau concept.
Vous ça, dormez beaucoup
6 heures, ça suffit. Le poète travaille quand il dort. Il n'y a pas d'arrêt.
C'est poreux.
C'est fluide, c'est contrasté, c'est une navigation.
Dormez de la même façon à Venise qu'à Paris ?
Ça dépend. Ce qui manque le plus à Paris, souvent, c'est de ne pas pouvoir dormir. Ce mot magique qui s'appelle la sieste, n'est-ce pas, la sieste. C'est là qu'on dort le mieux. Et vers 5 heures de l'après-midi, 4 ou 5 heures, vous savez que c'est le moment où l'être humain est le plus fécond en fonctionnement du cerveau. C'est en quoi nous ressemblons aux mouches. Vous savez que la mouche est très proche de l'être humain. Hein.
Alors, ça vous rapproche de Duras, que pourtant vous détestez.
Duras, pourquoi ?
Parce que Duras avait une passion pour les mouches et a fait tout un texte autour d'une mouche qui se collait contre une vitre et qui lui faisait comprendre l'existence autrement.
Non, moi j'ai horreur des mouches. Ah là là, j'ai horreur des mouches. Oh, il y a une phrase de... C'est Pascal qui dit « L'homme ne raisonne pas bien. » Voilà, il dit voilà, « Ce qui peut troubler un raisonnement, c'est une mouche. L'homme ne raisonne pas bien, il y a une mouche qui bourdonne à ses oreilles. » Ça, c'est renversé par l'autre amour dans Poésie, qui dit « La mouche ne raisonne pas bien, aujourd'hui, un homme bourdonne à ses oreilles. » Donc, il montre que la déraison est là. Et alors, bon, il y a le moustique aussi, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Non. En revanche, j'ai été voir le laboratoire de mon ami Jean-Didier Vincent, qui s'occupe de cloner les mouches, vous savez. Et qui d'ailleurs m'a dit qu'il pourrait me cloner aussi. Enfin bon, mais que je ne serais pas forcément. Je serais à peu près le même, mais je ne serais pas forcément écrivain. Ce qui prouve que ça échappe au clonage. L'art pratiqué par quelqu'un, je serais pareil, vous voyez, comme ça, aimable, plutôt, bon vivant, paraît-il. Bon,
mais pas écrivain. Vous vous imaginez pas écrivain ?
Et non. Et voilà pourquoi. Ça consiste à être très attentif constamment, constamment, constamment.
Donc vous écrivez toujours, jour et nuit.
Écrire et penser est écrire sans accessoire. Donc si on pense, on est en état d'écriture. Voilà, on n'est pas obligé de tracer sur du papier.
Alors, pensée et écriture, parlons un peu de l'influence de la philosophie à l'intérieur de votre littérature. Vous avez cité au cours de cette semaine le nom de Heidegger à plusieurs reprises. Vous citez aussi beaucoup Parménide, c'est en relation avec Heidegger. Vous citez aussi dans vos livres d'entretien et dans les livres ayant trait à votre propre écriture, je ne parle pas là de l'écriture romanesque, mais des livres sur l'écriture, vous citez beaucoup la phénoménologie.
Absolument. Ça a été pour moi décisif, très jeune, de lire Husserl. Les recherches logiques, la logique m'intéressait beaucoup. Les recherches logiques et les méditations cartésiennes, etc. Tout ça m'attirait profondément. Qu'est-ce qui est vrai, comment la vérité habite à l'intérieur de l'homme, pour parler comme Husserl à la fin des méditations cartésiennes, en citant Saint-Augustin, si vous voulez. Bon. Oui, mais regardez Heidegger, le maudit de la pensée. Bon, on ne va pas aborder ça. Voyez son livre sur Parménide. Qu'est-ce que c'est que le Parménide ? Ça tient en 7 ou 8 pages. Et il y a des commentaires depuis très longtemps. Voilà. Alors j'avais employé sa formule de Parménide dans un film que j'ai réalisé sur Rodin, sur le penseur de Rodin. J'achève ça comme ça, l'être et le non-être n'est pas. Ce qui m'avait amusé à l'époque, c'est que Françoise Giroud, rendant compte de ce film admirable d'ailleurs, je peux me juger moi-même, dit voilà, on entend des choses comme l'être...
Vous êtes toujours content de vous-même.
Non, pas content. Amoureux, admirateur, fanatique. Content, non. Content, c'est pas assez. Par rapport, par rapport à la façon dont les autres veulent vous censurer et veulent vous faire mourir, il faut être fanatique pour tenir le coup. Donc, elle dit, il y a des choses de ce genre, l'être et le non-être n'est pas. Bon, des banalités de ce genre, des banalités qu'on commande depuis des siècles. Donc, le Parménide d'Heidegger est un grand chef-d'œuvre. Il est paru il n'y a pas si longtemps en français. Et c'est un poème qui fait 8 pages, un poème de pensée, justement, qu'on a tort d'appeler un poème didactique, c'est un poème de pensée. Qu'est-ce que c'est ? C'est 2500 ans hein, pour nous. Donc ça n'a pas une ride comme expérience. Et donc c'est l'histoire d'un mortel qui s'échappe des chemins battus et qui galope, mu par son désir profond, emmené par des cavales avec des jeunes filles qui lui montrent la voie, les filles du soleil, que c'est beau. Et il arrive où ? À une porte qui s'ouvre et il a affaire à la déesse vérité. Pas la déesse de la vérité, la déesse vérité elle-même, à l'Étheia. Donc c'est un poème absolument qui lui explique un peu, pas ce qu'on rumine là, les mortels qui tournent en rond avec leurs opinions, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que le fond des choses. Donc vous voyez, je dis ça pourquoi ? Parce que les dieux et les déesses grecques m'intéressent au plus haut point. Je trouve que c'est malheureux qu'on les ait totalement oubliés, au point qu'on les cite en latin. On dit Jupiter, mais on ne doit pas dire Jupiter, il faut dire Zeus, parce que Zeus, j'aime autant vous dire que l'éclair est plus frappant. On ne doit pas dire Minerve, mais on doit dire Athéna. L'Athéna, c'est la déesse qui protège Ulysse, qui porte mon pseudonyme. Dans toutes ces histoires de l'Odyssée, vous avez... à peine j'ai su le livre, 12, 13, 14. Oh, l'Odyssée! Mais remettez-moi ça! Mais racontez-moi l'Odyssée! Il y a la Bible aussi, mais enfin, c'est pas le même. C'est pas le même jour. Enfin,
Que la Bible doit être sur votre table de chevet, non?
Ah, bah, bien sûr, oui. Mais il y en avait chez moi.
C'était peut-être pas les mêmes.
C'était la grande Bible du 18e de Don Calmet, où il y avait des illustrations magnifiques. Voilà, l'errance du peuple hébreu dans le désert, tout ça me parlait beaucoup. Oui, oui, bien sûr, j'écoutais très attentivement. La Bible que j'ai lue, je suis un des rares écrivains français à connaître très, très, très bien la Bible. On peut rester là aussi 3 heures là-dessus, si vous voulez. La Bible, les évangiles, les psaumes, les prophètes, voilà, tout ça. Voilà.
Et oui, que lisiez-vous quand il était petit à votre fils David ? Plutôt la Bible ou plutôt Ulysse ?
Les deux. C'est comme ça qu'il faut faire les deux, puisque de toute façon, le catholicisme résout ça, puisque catholique, ça veut dire universel. Donc, c'est parfait. On prend ça, on prend ça, on prend ça. Tout est parfait. Il n'y a pas de rejet, en principe.
Comment la Bible irrigue-t-elle votre imaginaire ? Elle est comme une sorte de fleuve souterrain dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos textes.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un garçon qui a fait le conte de toutes les références bibliques dans Paradis. Il y en a, je ne sais pas, 2500. Bon. Ça m'habite, voilà. Parce que tout simplement...
C'est la littéralité du texte qui vous habite.
C'est le rythme. Bereshit, bara, Elohim, etc. Bon, il faut faire du rythme. Il faut écoute, Israël, c'est ça le fond de la vie. Écoute, hein, écoute. J'aime. L'écoute. Donc, on écoute ou on n'écoute pas. Bon, voilà. Puis ensuite, il y a des tas d'histoires absolument, absolument gigantes. Enfin, c'est pas du cinéma. Ce sont des histoires internes. Pourquoi David, par exemple, qui est le prénom de mon fils ?
Comme par hasard ?
Bah oui. Voilà, ça s'est posé comme ça. Est-ce que je le fais baptiser catholique ou pas ? De quel droit interrompre ? Il faut penser quelque chose. On transmet pas. C'est transmis.
Parce que vous n'étiez pas encore devenu catholique au moment de la naissance de votre fils.
Mais j'étais toujours été catholique, cher ami. On ne devient pas catholique, sauf si on se convertit. Mais moi, je suis d'origine, de souche.
Oui, mais vous êtes un catholique fervent, et ça, c'est assez récent.
Bah oui, je trouve, encore une fois, je vous dis, le catholicisme est revenu tout naturellement. Parce que je vivais en Italie, qu'en Italie, il est impossible de ne pas comprendre qu'il y a quelque chose de tout à fait ahurissant dans cette affaire. Selon que vous êtes à Florence, à Rome, à Venise, à Naples.
Mais l'appartenance à une culture passe-t-elle par la religion, L'appartenance à une religion.
Si vous ne savez pas de quelle religion il s'agit qui a produit ça...
C'est culturel.
Mais c'est pas culturel. C'est pas culturel. C'est que toutes ces choses ont été évidemment produites avec une foi considérable que vous entendez ou que vous n'entendez pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une annonciation, qu'une assomption, etc., vous ne...
Donc c'est par le biais de l'amour de la peinture que vous avez commencé à comprendre que, né catholique, vous l'étiez aussi,
ben, je le suis,
religieusement parlant.
C'est-à-dire que la religion a mauvaise... je ne suis absolument pas religieux. Je ne m'intéresse pas au lien entre... Je ne fais pas de prêche, de sermon, etc. Mais en revanche...
Vous allez voir le pape quand même.
C'est la moindre des choses. En général...
Si tous les catholiques voulaient se faire embrasser par le pape...
On n'est pas allé jusque-là, mais enfin, il y a une main très, très...
Il y a des photos qui attestent d'une rencontre.
Il y a une rencontre, on a oublié de quoi il s'agissait. Je lui remets une...
Il s'agissait de Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Parce que vous avez vos papes aussi, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez moins.
Jean-Paul II, le 13 mai 1981, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République française. On a gagné. Bon, le même jour, le pape polonais Jean-Paul II reçoit 2 balles dans le ventre. Il a été à 2 doigts de se faire sacrément buter. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a un livre de moi qui s'appelle Le Secret, qui est archivé.
Dans la bibliothèque pontificale.
Oui, absolument. Vous avez un dictionnaire historique de la papauté.
Vous n'en êtes pas peu fier.
Je trouve que c'est pas mal, oui, d'une certaine façon. Bref, tout le monde a oublié que je remets au pape un livre sur la Divine Comédie de Dante. À qui voulez-vous que j'offre un livre sur la Divine Comédie de Dante? Bon, il y a mon ami Jacqueline Risset qui a traduit la Divine Comédie, parce que je m'intéressais à Dante et elle aussi. Et donc, on a beaucoup travaillé à Dante. Est-ce que Dante est connu en France? Écoutez, non, pas plus que le catholicisme romain.
Alors, Jean-Paul II, la rencontre, pourquoi avoir voulu absolument rencontrer le pape?
Parce que ça suivait ce roman.
Parce que beaucoup se sont moqués de vous, hein?
Les ploucs se sont moqués de moi, les ignorants. Peu importe, c'est pas le problème. Je publie ce livre, Le Secret, il y a 20 ans, où il est beaucoup question de la mafia, d'ailleurs, et Jean-Paul II est le seul qui, dans un discours célèbre, agrégeant, a parlé contre la mafia, qui a beaucoup infecté les alentours de la banque, de les Banco Ambrosiano, comme vous savez. C'est très, très intéressant, cette histoire. Le type pendu sous un pont, Calvi, à Londres, le Monseigneur Marcinkus, qui doit respirer encore dans un fond de couloir, tout ça a été éminemment romanesque. Donc, je publie un livre sur la divine comédie. Dante est absolument un personnage essentiel de mon existence. Je me le récite. « Nel mezzo del cammino della nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. » Vous comprenez? Voilà. Et l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Hein? L'amour qui meut...
Il y a un concept que vous empruntez à Dante ou que vous avez peut-être inventé à partir de votre lecture infinie de Dante, c'est celui de transhumanar.
Transhumanar, c'est lui qui a inventé le verbe transhumaner, passer à travers l'humain. Hein, passer à travers.
Comment vous l'entendez?
Je l'entends au sens de la traversée de l'être mammifère. Donc, pour aller vers quelque chose de plus...
Sortir de soi?
Oh, de soi, ça suffit même pas. Il faut sortir de la condition humain, trop humain, a dit Nietzsche, n'est-ce pas? Humain, trop humain, voilà. Donc, transhumanar, c'est aller... ça, c'est le problème de Dante. Il veut aller au paradis, il veut aller dans l'amour.
Vous aussi, hein?
Bien sûr, oui, il n'y a aucun problème. Oh oui, je préfère. Il y a des gens qui me disent souvent « Ah, l'enfer, c'est plus intéressant que le paradis. » Ben alors qu'ils y aillent. Le paradis, le paradis, c'est ennuyeux. Oui, c'est ça, oui. Le paradis, c'est ennuyeux. Ah bon?
Il y a le purgatoire aussi.
Oui, il y a le purgatoire. Si on peut passer par le... Dante a fait tout le parcours, il nous renseigne là-dessus. Vous avez des supplices horribles. Il y a une chose qui est oubliée, c'est que le fin fond de l'enfer, c'est la glace, c'est le froid, c'est l'aphasie. C'est exactement comme les banques au Luxembourg, au Berne, etc. Vous voyez, c'est ça.
Voilà. Mais le paradis, on ne sait pas très bien ce que c'est,
si,
sauf
pourquoi
à vous relire.
Mais comment on sait très bien ce que c'est si on le lit? C'est des tourbillons, c'est le chant, c'est l'allégresse permanente, c'est l'art, c'est l'art même. Dieu est un artiste considérable. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas en général, qu'on décide qu'il est mort, mais bon, ça lui fait des choses des fois. Donc, ce n'est pas ça. Cette haine de l'art, je crois, dit Flaubert, à la haine inconsciente du style. Eh bien, là, il touche un truc. Je crois, moi aussi, à la haine inconsciente de l'art. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe pour l'art contemporain, toutes ces déchets, toutes ces merdes. Vous allez chez Pinault, à Venise, et vous voyez comment orchestrer des déchets.
Non, il n'y a pas que des déchets.
Mais si, il n'y a que des déchets. Ce n'est pas grave.
La Dogane.
Oui, oui.
Et au Palazzo Grazzi.
Oui, oui.
Il n'y a pas que des déchets, il y a les artistes
contemporains. Il vaut mieux aller dans une église pour regarder.
Ça, c'est le côté réac de Soler. Ça m'étonne toujours.
Oui, c'est ça. Oui.
Il n'y a pas que des merdes dans l'art contemporain, vous le savez bien d'ailleurs. Là, vous jouez le provocateur.
Oui, c'est ça. Je voudrais que les artistes me parlent.
Mais revenons-en au pape.
Oui, oui. Eh bien, personne n'a remarqué que dans cette photo qui a fait scandale, j'offrais un livre au pape qui était soigneusement.
Vous étiez agenouillé quand même.
Mais écoutez, c'est pas mon. Je suis pas contre le protocole. Je ne pense pas que ce soit décent d'aller taper sur l'épaule de la reine d'Angleterre. Alors, ma vieille, ça va. Je suis contre le fait, quand c'est un pape, oui, agenouillé, oui, enfin, oui, bien sûr. Je lui offre quelque chose qu'il prend. J'ai reçu, d'ailleurs, par la suite, des lettres, mais extrêmement touchantes, profondes, pour discuter mon point de vue sur Dante. Vous savez... Réac ou pas, ça veut rien dire. Il faut.
Mais vous croyez à la résurrection ?
Mais je ne sais pas si vous concevez. Pour vous répondre, il faudrait que je sache ce que vous concevez par là, ou si ça vous paraît une fadaise absolument impossible.
Mais non, autrement dit, c'est la façon. Une fadaise. J'essaye de savoir comment vous, qui êtes si cultivé, à la fois dans le domaine de l'art, de la littérature, de la poésie, de la philosophie.
Oui, mais c'est ça qui est être révolutionnaire aujourd'hui. Oui, oui, c'est être révolutionnaire et le contraire donc de Réac, de s'occuper de tout ça. Voilà, je suis profondément convaincu. Donc je suis tout à fait révolutionnaire en m'intéressant aux choses fondamentales que j'essaye de transmettre. Premièrement, quant à croire à la résurrection, il faudrait quand même savoir ce que vous pensez de la mort, et c'est là que le débat vient à son comble. Bon, alors, moi je peux vous réciter le « Je vous salue Marie », hein, par exemple, ou par exemple, noter un nouveau concept qui m'est venu au moment de l'Immaculée Conception, c'était le 8 décembre dernier, n'est-ce pas, c'est la PSA. Alors, contrairement à la PMA, la procréation... Médicalement assisté, oui, dont il est beaucoup question. Là, vous avez un cas, une fois pour tout, d'ailleurs, de procréation spirituellement assistée. C'est le cas de la Vierge Marie. Le PSA me paraît très préférable l'industrie du PMA. C'est rare et ça n'intervient qu'une fois pour toutes, d'une certaine façon. Bon, passons. Mais
non, ne passons
alors,
pas.
Alors, si vous êtes, vous récitez ça, priez pour nous, etc., pauvres pécheurs. Pécheurs, il faudrait s'entendre sur une nouvelle définition du péché, qui a toujours été pris de façon sexuelle, ce qui est une très grosse erreur de l'Église en général. Le péché, c'est le calcul, c'est pas le sexe, c'est le calcul, c'est le fait de calculer, hein, c'est donc ne pas être gratuit. Hein. Pauvres calculateurs, nous sommes, pauvres mesquins calculateurs, du matin au soir, maintenant et à l'heure de notre mort, ce qui veut dire très exactement que l'heure de votre mort et la mienne, c'est maintenant. C'est tout de suite. Donc la résurrection, c'est pas dans l'au-delà, c'est tout de suite. C'est pas dans l'au-delà, après la mort, le débris de votre corps qui va surgir au cimetière pour flotter dans l'air. Non, c'est tout de suite. Il y a une conception du temps. Et encore une fois, c'est là où c'est très très beau, où ça produit des tonnes de merveilles. Voilà, ça m'enchante. Je suis révolutionnaire parce que je m'enchante de ce qu'a produit le génie humain.
Le génie du christianisme.
Oui, ça c'est le titre de Chateaubriand, dans une époque forte bizarre, n'est-ce pas ? Tout le monde a hurlé. Chateaubriand n'est pas très, très, très précis. Il voulait rétablir... Enfin, écoutez, la France a été un pays de déchristianisation massive. On l'a vu avec la Révolution, l'Empire, etc. Bon, il serait temps de réévaluer un peu tout ça, de visiter l'histoire. Voilà, c'est tout.
Vous avez des identités rapprochées, multiples.
Les IRM.
Voilà, c'est une autre manière de désigner une certaine nosographie médicale. Depuis combien de temps vous êtes-vous affranchi des règles de la syntaxe pour pouvoir construire votre propre rapport à la langue française ? Et qui êtes-vous, Philippe Solers, parmi ces IRM-là ? Lequel est le bon ? Lesquels sont les fantomatiques?
Et
croyez-vous en vous? Ça fait beaucoup de questions.
Je crois en toi.
Avec un grand T.
Oui, ou avec un T-O-I-T en toi. Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Qu'est-ce que ça veut dire, un, de tutoyer son âme en l'appelant éternelle? Ben, c'est pas moi, c'est Rimbaud. Je vous dis, dans l'autobus, ça crée un entourage bizarre. Vous savez, tous ces gens sont là, fatigués, hébétés, la plupart très soucieux. On passe sous un cèdre, c'est le début de l'éclaircie, qui bénit absolument toute la circulation. Voilà, les bons, les méchants, les fatigués, les malades, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Voilà, il y a tout à coup une sorte de... Hein, voilà, tout ça, c'est cool. Voilà. Hein, c'est cool dans la mort, dans le néant, ouais, bien sûr. Vous avez ou pas ce sentiment violent de l'écoulement du temps. Et qu'est-ce que c'est que voler selon? Selon. Quel est le bon Solers, me dites-vous? Quel est le vrai? Oh, quelle réduction!
Pourquoi... Arrivez-vous à cohabiter avec l'ensemble de vos Solers?
Ben oui, oui. Venez y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire. Vous cohabiterez avec tous mes solaires à la fois. Si vous trouvez que c'est fatigant, c'est possible. Il faut un système
nerveux.
C'est
vous qui devriez être fatigué de temps en temps.
Je me fatigue beaucoup, mais je me régénère aussi. Non, il faut que j'ai une pensée émue pour les partenaires qui ont quand même accepté de m'accompagner avec tous ces solaires.
Pourquoi? Parce que solaires, c'est fatigant.
Oh là!
Solaire, c'est intempestif.
Oh là là.
Solaire se fait n'importe
quoi. J'aime beaucoup le mot intempestif. Oui, c'est très Nietzsche. Hein. Il était intempestif. Oui.
Solaire, a-t-il encore quelque chose à écrire qui s'affranchisse des règles de la syntaxe?
Écoutez, vous parlez des règles de la syntaxe comme s'il s'agissait de l'étable de la loi. Mais
Je pense à Paradis.
En fait, oui, parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Mais à la voix, on rétablit tout de suite la syntaxe, c'est très facile. C'était une tentative orale particulièrement précise.
Le trésor d'amour reprend aussi des parties, des manières d'écrire de Paradis?
Oui.
Il y a toujours une même trame.
Il y a des gens qui ont cru... après, j'ai reçu 10 tonnes de pastiches de Paradis, de plagiat. Mal fait, en général, parce que les types ont cru qu'il suffisait de supprimer la ponctuation sans s'entendre. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de remettre un petit peu des phrases apparemment classiques pour raconter des choses. De toute façon, c'est les contenus qui importent. On sait... Quand on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, on se fixe sur la forme. Les contenus sont très importants chez moi.
Oui, mais la forme aussi. D'abord la forme.
C'est la même chose. Bon, on ne me parle jamais des contenus, parce que ces contenus sont gênants. Pourquoi ils sont gênants? Parce qu'il y a un navigateur qui a des histoires multiples avec des femmes. C'est déjà... Est-ce que c'est bien fait ou mal fait? Ça dépend qui le fait. Puis c'est... Casanova, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire plus actuel, voilà. Donc, c'est les contenus qui sont mal perçus.
Mais vous n'écrivez pas des histoires, Philippe Solers.
J'écris des tas d'histoires.
Oui, il y a des histoires.
Il y a des tas d'histoires avec des personnages féminins qui sont là dans tous les livres, qui ont des prénoms, je parle d'en fugue. Pourquoi universitairement et pourquoi le fait de ne pas savoir... Je dis que mes amis lisent un livre, disent « Ah, c'est très bon, etc. » Bon, c'est très bien.
Mais
si je leur demande comment s'appelait quel était le prénom du personnage principal féminin de l'un ou l'autre roman, ils ne sauront pas me le dire. Donc il y a quelque chose qui oblitère la vision. Alors, c'est pour ça que j'ai mis portrait de femme. Je suis comme un peintre, je suis comme un... C'est celle-là, peinte comme ça, celle-là, celle-là, celle-là. Elles ont toutes des prénoms. C'est Mina dans Trésor d'amour. C'est... voilà, elles ont toutes des prénoms.
Mais ce sont toutes des facettes d'une galerie de 5 ou 6 femmes quand on vous lit attentivement.
Pas du tout, il y en a de tous les milieux, de toutes les ethnies.
Mais ça, c'est le côté collectionneur, là.
Écoutez, un collectionneur, en général, c'est inerte. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui range une collection en fonction d'une revente éventuelle. C'est horrible, le mot de collectionneur. Moi, je prétends au contraire, c'est un passage de Portrait de femme, que j'ai eu, en quelque sorte, mes collectionneuses, ce qui est tout à fait différent.
C'est-à-dire que c'est elle qui vous collectionne.
C'est ça. Donc, en général, c'est plus intéressant d'être collectionné, parce que on peut avoir, en effet, comme ça, des aventures. Donc, non, collection, c'est action. Dans collection, il n'y a pas action. Il faut être sur le terrain et dans l'action.
Séduisez-vous pour pouvoir en écrire ?
Vous savez, c'est comme toujours la même chose. Est-ce que vous vivez avant d'écrire ou est-ce que vous écrivez avant de... la réponse, c'est l'épitaphe de Stendhal. En italien. Stendhal a commis un blasphème épouvantable. Il a écrit son épitaphe en italien. Arrigo Belle, voilà. Visse, scrisse, amo. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. Son cousin a trouvé que la formule n'était pas correcte. Il a changé ça. On a été obligé ensuite de rétablir l'épitaphe. Non, il a écrit visse, amo, scrisse. Il a vécu, il a aimé, il a écrit. Mais non, il a vécu, il a écrit et il a aimé. C'est parce qu'il a écrit qu'il a aimé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Pour quelqu'un qui est dans le langage, qui écrit constamment, les opportunités de la réalité se présentent. C'est exactement une façon d'agir dans la réalité même. Parce que vous êtes dans cet état-là et qu'un certain nombre de partenaires le ressentent comme tel. Et donc, c'est moins ennuyeux que ce qui leur arrive en général dans l'existence. Donc, bonne chance. Pas toujours, mais souvent.
On l'aura compris, vous passez vos jours et vos nuits à penser à l'écriture, à écrire, à recommencer chaque jour, chaque page d'écriture. Pourquoi vous encombrez-vous encore, Philippe Solers, de la dure tâche d'être un éditeur, puisque vous dirigez une collection chez Gallimard, et aussi de cet emploi du temps très astreignant que requiert la direction d'une revue qui s'appelle L'Infini ? Est-ce que vous ne voulez pas, justement, rester en tutoiement avec vous-même toute la journée ?
Premièrement, si je ne m'étais pas occupé de m'auto-éditer, il n'est pas sûr que mes livres auraient été édités. Pas sûr du tout. Par conséquent, vous aurez remarqué
c'était
sans doute...
C'était une protection, alors, de votre propre travail.
C'est la guerre. La guerre, dans ce cas-là, est défensive. C'est la meilleure forme de guerre.
Vaut mieux se prémunir.
Et c'est une guerre. La guerre est c'est une guerre entre l'individu seul qui écrit et la société en général qui n'en a rien à foutre. Ou alors gagner de l'argent de plus en plus sur des faux produits. OK ? Donc c'est la guerre. Donc si je ne m'étais pas occupé de me donner la liberté de me publier en fondant deux revues qui ont fait parler d'elle, l'une qui est dans tous les dictionnaires dans le monde
entier. Il y a même des livres dessus, voilà. Comme l'excellent Philippe Forest.
Voilà. Donc si je ne m'étais pas astreint à faire ça, je n'aurais pas pu avoir la liberté personnelle que j'ai eue par ailleurs. Donc voilà, ça fait partie de la guerre.
Et les auteurs que vous avez découverts, et pas des moindres, puisque vous êtes un acteur essentiel de la scène culturelle française depuis plus de 50 ans, vous ont-ils influencé ? Je pense à Barthes, par exemple.
Oh, Barthes, je ne l'ai pas découvert, il existait déjà.
Il a écrit sur vous.
Il vous a encouragé.
Est-ce que tous ces signes de ces grands poètes, vous avez évoqué aussi la figure d'Aragon, de Breton, de Francis Ponge.
Oui, c'est comme si vous demandiez à un musicien tous les musiciens. On connaît tout ça très bien en général. pas.
Ça vous a jamais tourné la tête?
Mais, ma tête tourne à 100 à l'heure, donc j'ai pas une tête à tourner.
Ça tourne trop vite.
Ça tourne au point que ça paraît immobile, si vous préférez. Hein, comme les hélices. Bon, écoutez, non. Barthes, le charmant Barthes, à la fin de sa vie, il voulait écrire un roman. Bon, c'était évidemment trop tard. Bien entendu qu'il ne pouvait pas écrire de roman.
Mais il n'y a pas d'âge pour écrire des romans.
On commence pas à 60 ans à écrire des romans, cher ami. C'est quelque chose. À 40 ans, c'est déjà la limite. Céline, Le voyage au bout de la nuit, c'est 40. Bon, mais là, ça n'est plus possible. Non.
Vous avez commencé par le roman.
Oui.
Mais vous n'avez pas écrit que des romans.
Non.
Comment se fait justement l'orchestration des différents cycles d'écriture?
Tout naturellement, parce que, encore une fois, c'est...
C'est pensé ou ça vient comme ça?
Mais ça vient quand, par exemple, Le Monde, c'était je devais faire un grand article par mois. Bon.
Qui était prodigieux et qui...
Ça donne La Guerre du Goût.
Qui ressortissait effectivement à des lectures...
La Guerre du Goût, bon, voilà.
Précise.
Donc, ce que je prévois en général, c'est... Il y a des commandes que je prévois comme les différents aspects d'un livre à venir. Donc, savoir se servir des médias, comme je suis en train de le faire, avec vous, ça consiste...
On verra qui se sert de qui. Moi, j'ai l'impression que notre rencontre, depuis maintenant 4 jours, elle est loyale et qu'elle évoque pas d'arrière-fond, de marchandage ou de je sais pas trop quoi.
Mais non. Vous vous servez de moi, je me sers de vous.
Non, parce qu'on a souvent dit, mais comment vous servez de moi?
Je vous écoute, je vous réponds, et nous passons sur les ondes ensemble, vous avec votre voix tout à fait positive.
Vous êtes sans voix, hein?
Qui me laisse absolument sans voix. Elle va revenir, peut-être, mais je pense trop à la vôtre pour la retrouver. Là.
Non, mais non, parlons mais bon. Des médias. Ici, on est à France Culture... Mais on vous a beaucoup reproché.
Ah, on. Revoilà, on.
Des critiques vous ont beaucoup reproché. Des gens qui ne vous aiment pas, il y en a, vous ont beaucoup reproché. C'était le titre qui vous était donné, de faire le pitre à la télévision pendant un certain temps. Vous le regrettez ou pas?
Mais pas du tout. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Le clown, le pitre, l'acrobate, n'importe quoi. Il faut de toute façon... que ça cause. Il faut faire travailler...
Mais ça ne cause pas de la même manière quand vous êtes dans une télé, une émission nulle et que vous essayez d'amuser les autres, parce que vous êtes très drôle, de toutes les façons.
Écoutez, qu'est-ce que ça peut faire? C'est démontrer que tout ça n'a aucune importance, que les médias...
Mais vous avez de l'importance, votre parole a de l'importance.
Mais non. Si j'avais de l'importance, il y aurait, par exemple, l'université me porterait au nu. Mais non.
Ah, vous le regrettez?
Oh non, je m'en félicite, parce que ça prouve que je ne suis pas mort. Attendez, écoutez, Laure, soyez patiente, je mourrai. Soyez-en sûr, je ressusciterai aussi d'une autre façon, mais enfin, c'est pas... Voilà, je ne suis pas pressé, et ben, vous verrez que ma cote, y compris universitaire, sera énorme.
Ça
sera même très rapide. Oh oui, mais là, je serai découvert.
Vous avez l'impression d'être un incompris.
Pas un incompris, un censuré. Oh.
Pourquoi censuré?
Parce que, encore une fois, on est dans l'oubli, dans la non-lecture. Que le grand problème de notre époque, c'est la non-lecture. Bon, je ne suis pas le premier à le dire, mais je suis le premier à le dire à ce point.
Mais vous êtes lu?
Oublu.
C'est-à-dire,
c'est pas vrai. Il faut pas mentir. C'est pas vrai. Écoutez, je fais un métier chez un éditeur. Je vois très bien comment tout se passe maintenant de plus en plus. Vous savez très bien que la situation est très inquiétante.
Pas seulement pour vous, pour tous les écrivains.
Pour tous les écrivains. Voilà. Elle est catastrophique pour.
Parlons pas des poètes.
Oh, les poètes. Mais c'est leur faute. C'est parce qu'ils ne se battent pas.
D'ailleurs, poésie, écriture.
Ah, c'est la même chose. Mais tous les poètes qui se croient poètes parce qu'ils écrivent des poèmes ont évidemment tort. La poésie, c'est la guerre, disait Mandelstam. Ils ne s'organisent pas pour la guerre. d'encre. Ils sont voués à la disparition. Une disparition satisfaite, ils se contentent des petits pourboires qu'on leur donne. C'est la misère en poésie. La poésie ne doit pas supporter la misère. J'exècre la misère, dit Rimbaud. Il a raison. Donc c'est la guerre. Donc, vous comprenez, il ne faut pas se plaindre. Never complain, never explain. Il faut faire la guerre. Ce sont des rapports de force. Les rapports de force, dans la guerre, c'est des rapports de pouvoir, etc. etc. Tant que j'ai pu, je me suis posé des questions comme ça, en termes de rapports de force, de pouvoir, etc. Et alors, les critiques fusent, elles fusent, parce que ce sont des contestations. Il faut empêcher un type qui est gênant de prendre du pouvoir. Donc il fait le pitre, on va le traiter de ceci, de cela. J'ai été dérisionné sous toutes les formes, je m'en fous complètement. L'important...
Non, vous en foutez pas, parce
mais
que
non,
dans
je
votre
les
dernier
utilise.
Bouquin, vous parlez de Marguerite Duras et vous semblez avoir été blessé à un moment où elle vous critiquait, vous avez affublé... D'un adjectif qui n'était pas très sympathique d'ailleurs, mais vous semblez avoir été blessé.
Eh bien, c'est un tort. Je n'ai pas été blessé. J'ai trouvé qu'en tauromachie, c'était une excellente partenaire à qui il fallait que je renvoie son insulte. Et je l'ai fait. Cela dit, je précise les conditions dans ce livre, Portrait de femme. Je précise en effet des choses à propos de cette ineffable Marguerite Duras. Bon, et donc,
vous êtes bizarre avec Marguerite Duras, parce qu'en même temps, vous la critiquez dans votre prochain ouvrage qui sort ces jours-ci, Portrait de femme. Et en même temps, dans le dernier hors-série du Monde consacré à Marguerite Duras, vous en faites l'éloge.
C'est ce qu'on a. Ça s'appelle l'ambivalence. Voilà, qui est souvent là une chose intéressante à étudier. J'aime Marguerite Duras quand son cas, historico-politique en l'occurrence, m'intéresse au plus haut point. Hein, parce que c'est pas rien quand même, s'appeler Donadieu, l'Empire français, patati, patata, moi, je ne veux pas vous réciter ça. C'est ce que Blanchot, n'est-ce pas, autre personnage très important de ces régions, appelle la communauté inavouable. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une communauté inavouable? Oh, que c'est intéressant. Bon, enfin, bref. Non, Duras, c'est important, à cause surtout du culte dont elle a été l'objet à partir d'un certain moment. Voilà. Ça correspond à l'élection de Mitterrand, la mort en 1984, best-seller, etc. Voilà, c'est tout. Oh, voilà. Tout ça est très politique.
Demeurez-vous un étranger pour vous-même?
Pas du tout. Étranger en quoi?
Je sais pas, vous êtes multiples, alors y a peut-être des solaires inconnus de vous qui ne sont pas encore dévoilés.
Oh là, ça m'étonnerait, mais laissez-moi, je vais regarder, peut-être, peut-être. En tout cas, au XVIIIe siècle, un Français ne se sentait pas étranger. Depuis, peut-être, peut-être.
Que vous reste-t-il à écrire?
Au plein de choses. Je suis déjà dans un grand roman qui m'intéresse beaucoup parce que je développe des trucs... Oui. Tout à fait nouveau. Donc, j'en ai déjà... presque la moitié, les deux tiers. Oh, un très bon roman. Excellent, excellent. Croyez-moi, très content de moi. Il est très content de lui. Il est très content de lui. Et les autres sont pas contents de lui parce qu'il est content de lui. Salaud, on aura ta peau.
Merci Philippe Solaire. Je rappelle que tous vos ouvrages, mais ils sont trop nombreux pour pouvoir les citer, vous les trouverez sur le site internet de France Culture. Vous les trouverez aussi dans toutes les bonnes librairies. L'avant-dernier, c'est Fugue. Et ça fait quoi? Ça fait 2000 pages au moins, non?
1020.
Ça fait 1110 pages.
30 euros, c'est donné.
Et puis le dernier, là, qui va paraître ces jours-ci, qui lui est très concis. Et c'est un petit trésor. Il s'intitule « Portrait de femme » et il est publié aux éditions Flammarion. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à vous, Philippe Solers.
Et merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci à Philippe Palarès, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture, les ateliers de la nuit.